Attention, vous êtes arrivés dans les Monts de Demain, une chronique du Parc Naturel Régional pour parler d'urgence écologique et climatique, mais aussi, surtout, de transition, pour imaginer ensemble les Monts de Demain. Le 15 juillet 2022, le Parc Naturel Régional des Monts d'Ardèche proposait une rencontre intitulée « Travailler autrement ?» avec un point d'interrogation. Céline Marty, philosophe, auteure de la série vidéo « Philo Boulot », intervenait aux côtés de Bertrand Roussel, fondateur de l'entreprise Terra Delis, qui accueillait la rencontre en ses murs. Dans son ouvrage « Travailler moins pour vivre mieux », Céline Marty décortique la place centrale que le travail occupe aujourd'hui dans nos vies. Cette importance que nous accordons au travail a des conséquences sociales, bien sûr, mais aussi environnementales. Et si travailler autrement était un des leviers vers la transition écologique ? Nous vous présentons des extraits de cette rencontre que vous pouvez retrouver en intégralité sur le site du Parc Naturel Régional des Monts d'Ardèche.
J'écris ma thèse sur un auteur qui s'appelle André Gorce. Peut-être que vous le connaissez un petit peu. C'était un philosophe du travail, un penseur de l'écologie politique, un penseur de la décroissance. Parmi les premiers en France à parler de travailler moins, produire moins, consommer moins, mais mieux. Pour mieux satisfaire nos besoins contrer un peu l'opulence de la production capitaliste qui nous propose toujours une nouvelle marque, un nouveau produit, mais sans satisfaire vraiment nos besoins. Et donc j'ai publié un livre qui s'appelle « Travailler moins pour vivre mieux ». Donc vous voyez tout de suite la direction dans laquelle on va, qui est le résultat d'une réflexion qui part de plusieurs sources. À l'origine, je m'intéressais aux conditions de participation démocratique et je me rendais compte que tous les mécanismes qu'on arrivait potentiellement à mettre en marge, même à une échelle locale, communale ou régionale, se heurtaient au fait que les gens étaient complètement pris par leurs conditions de travail et que quand vous avez des journées assez éprouvantes, un rythme de travail qui est dur, quand vous avez des problèmes personnels liés au travail, c'est difficile de s'engager politiquement, de s'intéresser à la vie collective. Et donc, je me suis intéressée au travail comme une sorte de condition de la démocratie. On a besoin de repenser nos modes de travail pour qu'ils soient plus démocratiques et qu'ils nous permettent aussi de s'engager plus politiquement. Et face à ce rapport un peu critique au travail, j'étais étonnée de voir que dans l'espace public, dans notre espace médiatique, notre espace politique surtout beaucoup, et dans notre espace un peu intellectuel, tout le monde valorise le travail. Vous n'avez personne qui vous dit que travailler, peut-être que ce ne serait pas si bien, qu'on passerait trop de temps à travailler, qu'on travaillerait beaucoup trop. Alors là, on n'entend jamais ça. Hein. Travailler beaucoup trop, on entend plutôt qu'il faut travailler plus. Là, en plus, on sort d'une crise sanitaire. On nous a dit qu'il allait falloir retravailler beaucoup plus pour relancer la production. Là, on est dans une situation dans un conflit où on nous dit qu'il va y avoir des pénuries, qu'il y a de l'inflation, et donc qu'il va falloir travailler beaucoup plus. La solution inverse ne semble jamais envisagée. Et donc, je me suis demandé pourquoi. Pourquoi c'est aussi unanime, hein ? Pourquoi nos politiques, de droite comme de gauche, sont aussi unanimes sur cette valorisation du travail ? Ce que j'ai fait dans mon livre, c'est un peu cette histoire morale, de cette histoire un peu philosophique aussi et intellectuelle, de cette valorisation du travail. Pour vous la faire courte, notre valorisation actuelle du travail, le fait de considérer que c'est notre activité principale, que c'est l'activité à laquelle on doit dédier notre vie pendant 40 ans, mais c'est hyper long, à temps plein, en fait c'est très récent, cette représentation-là du travail. C'est avec l'avènement du capitalisme industriel, donc l'essor de la production, l'essor des échanges marchands aussi, que le travail a été pensé comme une activité hyper importante pour l'humain. Et alors le pire, le gros élément déclencheur, on le trouve notamment chez Kant, dont on hérite en fait beaucoup. On s'imagine toujours que Kant est quelqu'un de très difficile à lire, etc. Mais vous ne vous rendez pas compte à quel point nos préjugés sur le travail viennent de Kant. Kant dit que le travail, c'est l'activité par laquelle on s'épanouit, on développe nos facultés intellectuelles et physiques, que sans le travail, on serait des animaux paresseux. Vous voyez, hein, nous, ça nous vient, que le travail nous discipline, nous domestique, mais dans un bon sens, qui nous éduque aussi, et que le meilleur repos est le repos après le travail. Et donc, il faut habituer les enfants à travailler beaucoup et à ne pas savourer le jeu en tant que tel, mais simplement en tant que repos un peu annexe du travail. Et en fait, cette représentation du travail comme une sorte de discipline des individus, de faire sortir le meilleur d'eux-mêmes, c'est ce dont on hérite aujourd'hui, et ça nous a rendu un peu aveugles sur les conditions dans lesquelles on travaillait et sur le contenu même de ce qu'on travaillait. Enfin, le contenu même de notre travail et de ce qu'on produisait. Parce que si on dit que tout travail nous développe intellectuellement et physiquement, que tout travail nous évite d'être des animaux paresseux à perdre notre vie, bah dans ce cas-là, en fait, tout travail se vaut. Et c'est peut-être ça la question qu'on se pose aujourd'hui avec la crise climatique, qui est de savoir si tout travail se vaut vraiment. Est-ce que c'est tout aussi légitime de créer une entreprise bio qui est ancrée dans un terroir, et est-ce que c'est aussi légitime que de travailler chez Total et d'essayer de trouver du pétrole ? Donc, moi, il y a deux éléments déclencheurs qui sont venus pour rediscuter un peu ça au niveau du travail. C'est à la fois la crise climatique, avec l'impression que aujourd'hui tout ce qu'on produisait n'était non seulement pas souhaitable pour nos conditions de vie, nos conditions matérielles de vie, pour la planète, et en plus était parfois complètement nuisible. L'activité de travail, c'est l'activité quotidienne qui a probablement le plus de coûts écologiques parce que vous avez un coût de transport, vous vous déplacez pour aller sur votre lieu de travail, surtout dans des régions comme l'Ardèche où il n'y a pas de transport ferroviaire et donc en fait on est dépendant de la voiture. Après, il y a peut-être des transports collectifs qui font qu'on réduit aussi cet impact écologique, mais en tout cas, on est très dépendant donc des énergies fossiles aussi. Donc le travail, c'est cette activité qui a un coût écologique de transport, de consommation aussi, parce que plus vous travaillez, alors ça, il y a eu des études économiques notamment là-dessus, plus votre temps de travail augmente, plus vous allez consommer du marché capitaliste privé, parce que vous allez avoir des consommations soit toute prête pour dépanner parce que vous n'avez pas eu le temps de vous faire à manger, donc vous allez acheter un truc tout prêt au supermarché, ou alors vous allez avoir des consommations qu'on appelle un peu compensatoires pour vous faire plaisir d'une dure journée de travail. Vous savez, c'est un peu le truc de bon bah là, on a bien travaillé toute l'année, donc on va se payer des vacances, etc. On voit de plus en plus de gens qui quittent leur emploi ou qui se posent des questions sur leur emploi parce qu'ils ont l'impression qu'il ne sert à rien. Vous savez, c'est parfois on dit c'est les bullshit jobs, comme l'a dit l'anthropologue David Graeber, c'est ses jobs à la con. Il dit lui-même, c'est bullshit, ça sert à rien. C'est un gros mot, pardon. C'est lui qui l'a dit. C'est pas moi. Et on peut dire à la noix, mais c'est un emploi à la noix qui ne sert à rien. Parfois, on passe des journées à écrire des rapports que personne ne lit. On passe la journée à faire des tableaux Excel ou PowerPoint qui, en fait, ne vont mener à rien parce que la réunion, elle est jouée d'avance ou des choses comme ça. Et du coup, toutes ces retours là aussi du terrain, hein, des travailleurs qui nous disent mais moi ce que je fais tous les jours ça ne sert à rien, bah, ça nous amène à nous questionner sur ce qu'on accepte de produire collectivement. Pourquoi il y a des gens qui aujourd'hui se lèvent le matin pour faire des choses qui ne servent à rien. Donc aujourd'hui il y a toute une partie de nos efforts qui ne servent à rien. Et ça, c'est terrible, parce que c'est à la fois des efforts humains, c'est un coût écologique énorme, et ça ne satisfait même pas nos besoins. Donc peut-être que si on arrivait à réorganiser ça indépendamment des contraintes complètement absurdes du marché mondialisé tel qu'on le connaît, hein, nos tomates qui viennent d'hyper loin, peut-être qu'on arriverait aussi à travailler moins et de façon plus durable.
Terra Delis, c'est une aventure qu'on a démarrée avec mon frère en 95. L'activité, on était tous les deux ingénieurs, travaillant dans des grosses entreprises. Et en fait, on a souhaité, au bout d'une dizaine d'années d'activité, d'expérience dans ces entreprises, quitter ce monde-là et créer quelque chose à taille beaucoup plus réduite et créer nos emplois. Quelque chose qui nous convienne, mais c'était surtout pouvoir travailler à notre compte et s'affranchir un petit peu du monde du travail tel qu'on l'avait connu pendant 10 ans. Il y a un moment donné où l'entreprise grossissant et se structurant, on avait commencé à faire des choix qui pourraient se comparer aux choix que toutes les entreprises font, c'est-à-dire à recruter un encadrement intermédiaire, à adapter une organisation très pyramidale. Et puis, au bout de quelques années, on s'est rendu compte que, en fait, on avait quitté ce monde-là et qu'on commençait à le recréer chez nous. Donc, c'est là où on s'est posé un certain nombre de questions par rapport à l'organisation du travail et qu'on a remis tout en cause, et on l'a remis en cause avec l'ensemble du personnel avec qui on a réfléchi. Et à partir de ça, on a complètement modifié notre organisation de façon à ce que chacun dans son domaine puisse prendre les décisions qui le concernent. Et donc on a défini dans l'entreprise des rôles. Là. Donc chacun est responsable d'un certain nombre de rôles qu'il doit réaliser et dont il a la responsabilité de mettre en action, mais sans fonction hiérarchique, c'est-à-dire qu'il n'a aucun pouvoir de donner des ordres. Mais il doit, s'il ne peut pas faire la tâche toute seule, et c'est souvent le cas, il doit pouvoir s'entourer, trouver des gens qui collaborent avec lui et qui doivent, de façon à ce qu'il puisse remplir ses rôles. Alors on s'est fait aider par un conseil extérieur qui intervient toujours. Et puis, c'est une démarche qui prend énormément de temps, puisque je parlais de 5 ou 6 ans tout à l'heure. Ça s'est mis en place progressivement et ce n'est pas fini. On est toujours en chemin, en fait. On a de plus en plus de choses dont la direction se déleste et qu'elle confie à différentes personnes qui prennent ces rôles-là. Et on s'aperçoit qu'en fait, à partir du moment où des personnes ont des responsabilités sur des domaines, il n'y a pas de souci, quoi. On peut faire confiance. C'est basé sur la confiance et en fait, on s'aperçoit qu'on a raison de se baser sur la confiance. Par exemple, au démarrage, on a alloué un budget d'investissement sur les améliorations des postes de travail. Mais on s'aperçoit que ça avance plus vite, que les améliorations se sont faites plus vite depuis qu'on l'a délégué. Et que les investissements sont toujours dits judicieux. Ça pouvait arriver avant qu'on fasse des investissements parce qu'on pensait que ça allait améliorer le travail et puis que c'est des outils qui restent dans les placards et qui ne sont pas utilisés, alors qu'aujourd'hui, tout ce qu'ils décident, c'est réellement utilisé.
C'était votre chronique, Les Monts de Demain.